Tout de suite, une rediffusion d'émission.
Eh bien, bonjour et bienvenue dans votre émission La vie des livres. C'est la dernière de la saison aujourd'hui. Christophe peut vous accompagner jusqu'à 10h. Et la technique, c'est Nicole Meuly. Voilà. Alors, le programme pour cette journée ce matin. Tout d'abord, vous retrouverez le relevé de compteur présenté par Florence D'Argent. Les bandes avec nous qui étaient enregistrées hier. Et puis on retrouvera la. Découvrir ça dans quelques instants. Ouais, dans quelques petit souci technique, vous êtes bien sur Radio Plus 104.3 ou sur internet radioplus.fr. Bienvenue, vous êtes dans Les Mains, ce livre, votre émission consacrée aux créateurs, créatrices et aux artisans. Et donc aujourd'hui, pour cette émission de rentrée, eh bien je reçois deux invités. Je reçois d'abord, alors je ne sais pas comment on doit s'appeler, donc ton nom d'artiste c'est Caro Higano.
C'est ça.
Et sinon on peut dire aussi ton nom courant.
Oui, bien sûr.
Voilà, donc Caroline Dewell, et donc ton nom d'artiste Caro Higano, voilà. Donc conteuse et illustratrice. Donc c'est pour ça qu'elle est dans cette émission. On fait un peu le lien avec l'émission précédente, La vie des livres. Et puis on reçoit aussi après, eh bien Sarah Bourgois pour Refab Market, qui est une start-up française qui crée des vêtements à partir de, eh bien à partir de recyclage. Donc voilà. Et puis elle nous rejoint cette saison, c'est Camille Plard pour la chronique Le Chemin Vert consacrée, eh bien, au développement durable et au zéro déchet. Et Camille, toi, tu as ton entreprise aussi qui s'appelle By Lilicam.
Oui, c'est ça. Bonjour.
Bonjour. Donc voilà pour le programme. On est ensemble jusqu'à 11h. Et c'est Nicole à la technique. Et donc, ben, je reçois maintenant Caro Higano, donc conteuse et illustratrice. Et bien, pour faire connaissance, peut-être en préambule, je vais te demander une petite histoire.
Avec plaisir. Ah,
allons-y.
D'abord, bonjour à tous. Alors... d'abord aussi, je voudrais vous dire que c'est une grande première pour moi, en fait, d'être à la radio. C'est la première fois que je vais compter aussi à la radio. Donc j'espère que vous allez apprécier. Alors pour commencer ce conte, j'ai besoin d'un prénom masculin. Et comme dans cette pièce, il y a un certain Christophe, je vais prendre ce prénom-là, et ce sera donc l'histoire de Christophe. Donc Christophe est un jeune homme simple. Il aime se balader, le nez au vent, à respirer les fleurs des champs. Il aime écouter les musiques simples des bergers qui gardent leurs troupeaux. Il parle facilement aux gens, nobles comme paysans. Il a toujours l'air heureux, insouciant. Il aime sa vie. Il est saisonnier dans la grande ferme qui est à peu près à 1 heure de route de chez lui. Lui, il habite dans une petite cabane en bois. Il vit simplement. Il aime vraiment sa vie. Il aurait pu continuer comme ça très 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 longtemps. Mais le destin en a voulu autrement. Ce matin-là, Christophe se réveille tôt, comme tous les matins. Il se lève, il fait une petite toilette rapide, il mange un petit morceau, il s'emmitoufle et il sort dans le vent froid de l'automne. Il avance, il traverse une grande prairie, comme tous les jours. Il traverse un petit bois, comme tous les jours. Mais ce jour-là, il entend un bruit qui vient de sa gauche. Une sorte de gémissement. Il s'approche. Et il voit un petit renard qui est pris dans un piège. Et Christophe, lui, il a pas envie de le laisser comme ça, le petit renard. Alors, il s'approche doucement en faisant un geste au renard pour pas qu'il panique de voir un humain s'approcher aussi près. Et il ouvre doucement la cage. Le renard saute et court dans un fourré. Et puis, voyant que l'humain ne le suit pas, il ressort doucement sa tête. Et il jappe, joyeusement. Il fait 2-3 cabrioles et il repart. Christophe, lui, il est tout content. Et il repart avec un grand sourire. Il va faire sa journée à la ferme. Ça se passe bien. C'est son dernier jour. Demain, c'est les vacances. Et il repart au soir. Il retraverse le petit bois et, arrivé à l'endroit où il y avait le petit renard, il entend à nouveau un bruit dans les fourrés. Alors il attend, s'attendant à voir le petit renard, mais c'est un gros renard qui sort cette fois. Et il tient une sorte d'étoffe rouge dans sa mâchoire et il s'approche de lui. Derrière lui, Christophe voit le petit renard du matin. Le gros renard s'approche doucement et il dépose l'étoffe rouge au pied de Christophe. Et il repart vite. Alors Christophe, il récupère la petite étoffe, il regarde. C'est un capuchon. Bon, sûrement un cadeau pour avoir aidé le renard au matin, mais qu'est-ce qu'ils veulent qu'il en fasse? Bon, il le met dans sa poche et il repart. Et là, il se met à pleuvoir, mais à pleuvoir très, 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 très fort. Et il est dans la prairie, il a pas de capuche, il a juste son gros manteau. Et ben si, il a une capuche, en fait. Le capuchon rouge. Alors il le met. Comme ça, il se protège. Et il va vite courir sous un arbre, pour se protéger un petit peu plus quand même. Et là, il voit un corbeau qui arrive de l'est, et qui se pose juste au-dessus de lui. Quelques secondes après, il voit un corbeau qui arrive de l'ouest, et qui se pose juste à côté. Et il entend « Bonjour, corbeau de l'Est !»« Bonjour, corbeau de l'Ouest !» Alors, Christophe, il est un peu étonné. Enfin, c'est pas dans son habitude de comprendre ce que racontent les oiseaux. Alors, il enlève son capuchon pour mieux entendre.
« Croix, croix !»
Ah, c'est le capuchon. Il remet le capuchon. Et il entend le corbeau de l'Est qui continue. « Figure-toi !» que le roi de mon royaume vient de tomber malade. C'est normal. Il a fait construire un grenier et, pendant la construction, il a fait emmurer un serpent. C'est la détresse du serpent qui cause la maladie du seigneur, mais les humains sont stupides et ne comprennent rien à rien. Quelle misère. « M'en parle pas, » répond le corbeau de l'Ouest. « Moi, c'est la fille de mon seigneur qui vient de tomber malade. Et... rien ne parvient à la guérir. Devine-en la cause.
Un serpent emmuré?
Non. Un arbre, entre la vie et la mort, sous le nouveau pavillon que son père vient de lui faire construire. Figure-toi que...
Aimé, il arrêtait de pleuvoir.
Au festin! Et les deux corbeaux s'envolent et vont vite picorer les petits vers qui viennent de sortir de terre. Christophe, lui, réfléchit un instant à ce qu'il vient d'entendre. Et il décide d'aller sauver le serpent, l'arbre, le seigneur et la jeune fille. Et le lendemain matin, il se met en route vers l'est. Il marche pendant quelques jours et arrive dans une grande ville. Il arrête un passant. « Excusez-moi, je cherche un seigneur qui vient de tomber malade et que rien ne parvient à guérir. Est-ce que c'est bien ici qu'elle vit? Est-ce que vous pourriez m'indiquer sa maison ?»«
Oui, dit le passant. Notre seigneur vient de tomber malade, mais comment savez-vous ?
Je suis devant, dit Christophe. Peut-être que je pourrais l'aider. Ah oui, bien sûr. Et le passant conduit Christophe dans la maison du seigneur qui est malade. Christophe regarde autour de lui et voit le grenier. Excusez-moi, ce grenier-là, vous venez bien de le faire construire ? Oui, oui, répond le serviteur. Et votre seigneur est tombé malade juste après. Ah oui, comment le savez-vous ? Eh bien, il y a un serpent emmuré dans les murs. C'est parce qu'il est en train de mourir que votre seigneur est malade. Libérez-le et vous verrez, votre seigneur ira mieux. Alors on fait venir les charpentiers, on démonte les murs et on trouve effectivement un serpent. Tout ratatiné, tout décoloré, tout rabougri. Alors ils prennent délicatement le petit serpent, parce qu'il est quand même dans un état un peu lamentable. Ils le déposent à terre et le serpent s'en va, tant bien que mal. Le lendemain, le seigneur est guéri. Alors il récompense grassement Christophe, et Christophe se remet en route vers l'ouest. Il arrive après quelques jours dans une grande ville, et là il arrête un passant. « Excusez-moi, je cherche un seigneur dont la fille vient de tomber malade et que rien ne parvient à guérir. Est-ce que c'est bien ici qu'elle vit ? Est-ce que vous pourriez m'indiquer sa maison ?»« Oui, oui, » dit un passant. « Mais comment le savez-vous ? » ?»« Je suis devant, » dit Christophe. « Et peut-être que je pourrais l'aider. » »« Oui, bien sûr, je vous accompagne. » Et le passant amène Christophe dans la maison du seigneur dont la fille vient de tomber malade. Arrivé là, Christophe demande à être conduit dans le nouveau pavillon que le seigneur a fait construire pour sa fille et qu'on l'y laisse seul. Alors le seigneur est étonné quand même qu'un étranger sache cela, mais bon, après tout, c'est un devin. Donc, il accepte et il fait conduire Christophe au pavillon. Arrivé là, Christophe met son petit capuchon rouge et il écoute. Alors, Pain, comment vas-tu ? Oh, mes amis sapins, merci de venir me voir. Hélas, je suis entre la vie et la mort. Ma souche est en dessous d'une gouttière, donc à chaque nouvelle pluie, je suis arrosée et je ne peux pas mourir. Mais à chaque fois que je refais des pousses, les hommes coupent mes branches. Je peux donc pas vivre non plus. Je ne sais pas combien de temps je vais devoir vivre cette misérable existence. Alors Christophe, en entendant ça, il dit « Demain matin, je sauverai l'arbre. » Et le lendemain matin, il va voir le seigneur et lui explique. « Lorsque vous avez fait construire le pavillon à thé pour votre fille, vous avez bien dû faire couper un grand pin. »«
Oui,
dit le seigneur. « Eh bien, la souche de ce pin se trouve sous une gouttière qui l'arrose à chaque nouvelle pluie, ce qui fait que ses racines ne peuvent pas mourir. Mais à chaque fois qu'il repousse, vous faites couper ses branches, ce qui fait qu'il ne peut pas vivre non plus. C'est sa douleur qui rend votre fille malade. Donnez ordre de faire déplacer cette souche et votre fille ira mieux. » Le seigneur suit le conseil de Christophe et fait déplacer la souche. Et le lendemain, la jeune fille est guérie. Alors elle demande à rencontrer cet homme qui comprend les arbres. Et quand ils se voient, ils se plaisent tout de suite. Elle aimerait bien le garder près de lui pour toujours. Et lui, il aimerait bien rester près d'elle aussi. Ils en parlent au Seigneur, qui accepte. Alors, ils se sont mariés. Et il est dit qu'ils ont vécu longtemps en harmonie. Et qu'ils ont régné avec sagesse sur leur royaume. Et quelque chose me dit que le capuchon rouge n'y est pas pour rien.
Eh bien, très bien. Merci beaucoup, Caroline. Alors, cette histoire que tu viens de nous raconter, elle vient d'où ? Est-ce qu'elle fait partie d'un de tes spectacles ?
Alors, c'est un conte qui est d'origine japonaise. J'aime beaucoup les contes d'origine japonaise. Je les trouve très... très beau. Et il fait pas particulièrement partie d'un spectacle, mais je le raconte quelquefois lors de balades contées. J'aime bien faire des balades contées, et c'est le genre d'histoire que je peux raconter à ce moment-là.
Oui, on va voir un peu ce que tu nous proposes. Alors, tu es à la fois conteuse et illustratrice, dont je me disais. Comment c'est venu tout ça, un désir de raconter sous toutes les formes, finalement?
Exactement. En fait, moi, je me définis comme une raconteuse. Et ce que j'aime faire, c'est emmener les gens dans un univers fantastique, onirique, poétique, qui leur demander, en fait, leur proposer d'oublier pendant un instant ce qu'ils croient vrai, d'oublier leur quotidien et les emmener dans un autre univers pour, voilà, pour changer le point de vue, pour changer de perspective et voir ce qu'ils y trouvent, tout simplement.
Très bien. Alors, comment tu t'es formée justement au conte ou à l'illustration?
Alors, en fait, j'écris et je dessine depuis que je suis en âge de tenir un crayon. J'ai d'abord commencé par développer le dessin et l'illustration. Et en parallèle, j'écrivais des petites histoires, des contes, etc. J'ai pris aussi quelques cours de théâtre. Et à un moment donné, on m'a demandé pourquoi je ne les racontais pas, mes histoires, vu que je faisais un peu de théâtre et que je les écrivais. Et j'ai trouvé que c'était effectivement une bonne idée. Donc je me suis formée au conte, principalement en Belgique, en suivant des ateliers de conteurs professionnels.
Oui, et ton sujet de prédilection, que ce soit pour le conte ou les illustrations, c'est la nature.
Oui, tout à fait.
Et d'ailleurs, tu proposes, on le disait, des randonnées contées dans la forêt. Il y en a eu il n'y a pas longtemps, près de Douai, je crois.
Près de...
Enfin, oui, ça dépend.
Oui. Ouais,
peut-être je vois large, mais bon, dans mon esprit, Douai, c'est pas très loin.
Oui, non, ça va. C'est vrai que c'est pas si loin que ça. C'était à Coutiche, pour ceux qui connaissent. C'était, oui, une balade contée au crépuscule avec, en partenariat avec Morgane de Mitéter Missoul, qui est une guide nature. Et donc, nous étions toutes les deux à proposer cette balade. Elle qui expliquait les plantes et qui racontait comment les utiliser, etc. Et moi qui faisais des contes par rapport à la nature.
Et ça se fait régulièrement, ce genre de randonnée en duo comme ça?
Là, c'était la première fois que nous la proposions, et vu l'engouement et la joie aussi qu'on a eu à le faire, effectivement, c'est quelque chose qu'on va sûrement refaire très bientôt.
Mmh. Alors, j'ai vu sur ton site internet qui s'appelle carohigano.com. Voilà. Donc, tu parlais de conte japonais, peut-être il y a une consonance un peu, Karo Igano, ou c'est plus autre chose, je ne sais pas.
Non, c'est pas japonais.
Et on peut savoir pourquoi ce nom de scène?
En fait, c'est un nom qui est venu il y a longtemps. C'était quand j'étais ado, que j'étais fan de manga et j'aimais beaucoup les iguanes. C'est quelque chose. C'est pas très. J'ai pas beaucoup d'explications, en fait. C'est un mot qui m'est venu et que j'ai bien aimé, que j'ai continué à garder. Et voilà, simplement.
Très bien. Pas de problème. Alors, j'ai vu que sur ton site, tu disais que l'art était pour toi un moyen de faire passer des messages.
Oui, oui.
Ouais. Et donc, qu'est-ce que tu essayes de faire passer, justement, dans ce que tu fais?
Moi, en fait, ce que j'essaie de faire passer, c'est la beauté des choses et d'amener les gens à se questionner, mais à leur façon. Parce qu'en fait, ce que j'aime beaucoup avec le conte, comme avec le dessin, d'ailleurs, c'est que, pour moi, les contes s'écoutent avec le cœur. Ils s'écoutent pas avec la tête. Ils parlent directement au cœur, ils parlent directement à la profondeur, à l'âme de la personne. Et en fait, parfois, on comprend pas les choses très intellectuellement, et c'est pas grave, et c'est même tant mieux d'ailleurs, je trouve. Et c'est la personne, en fait, qui voit comment elle le ressent. Moi, je sais qu'elle, je sais ce que le conte me fait, mais je sais pas ce qu'il va faire aux gens. Et c'est ça que je trouve super intéressant dans le conte, c'est que je peux raconter un conte à 15 personnes devant moi, les 15 personnes comprendront le conte de façon différente, et les 15 personnes le comprendront bien, parce qu'ils le comprendront à leur façon.
Mmh. Un peu comme la littérature.
Oui.
Comment tu choisis justement un conte ou une œuvre? Comment ça vient à toi tout ça?
Déjà, je lis énormément de contes et d'histoires en tout genre. Et parfois, j'en crée également des contes. Mmh. Donc, ça dépend. Soit c'est un thème et j'essaie de voir en fait ce que ce thème m'inspire, tout simplement. Soit c'est un conte que j'ai lu ou que j'ai entendu et qui m'a particulièrement touché, qui a touché quelque chose en moi que j'aime bien, que j'ai envie de partager. Donc je le partage, tout simplement.
Très bien. Alors, on peut retrouver ton travail donc sur carohigano.com et on peut aussi te contacter par ce biais pour ton travail d'illustratrice.
Mmh.
Je signale aussi que tu fais des maquettes de livres.
Oui, oui, oui.
Des maquettes de livres et puis des logos, ou plutôt de l'aide à la création de logos.
Oui, oui, oui. En fait... parce que oui, je suis graphiste aussi depuis 16 ans maintenant, dis donc. Et en fait, avant, je faisais les logos pour les gens, mais ça me ressemblait trop, en fait, ce qui sortait, je trouve. Je préfère maintenant amener le créateur à créer lui-même son logo.
Être là plus comme un soutien, un appui.
Voilà, donc en fait, je l'aide à réfléchir et aussi à utiliser les bons codes, parce qu'il y a quand même beaucoup de codes dans le logo, au niveau de la couleur, au niveau de la forme, ouais, au niveau des symboliques. Et aussi, j'aide la personne à le dessiner. Je lui donne des petits cours de dessin, si besoin. Et ensuite, à le rendre professionnel. Donc là, c'est moi qui le retravaille sur ordinateur et qui le met bien en forme pour qu'il ait quand même un rendu professionnel.
Oui. OK. Et donc, pour tout ton travail d'illustration, ça se décline sur différents supports. Des coussins, des mugs, des coques pour ordinateur portable.
Des sacs...
Et donc, oui, au niveau des dessins, donc, il y a par exemple l'Amazon.
Oui.
L'Amazon, la Dame du Chêne.
Oui, aussi, oui.
Je le dis à la française, hein, sur ton site, c'est en anglais. Du coup, j'ai révisé un peu mon anglais, je me souvenais plus que Ox, ça voulait dire chêne, voilà. Mais voilà.
Oui, parce que les reproductions sont en vente sur un site qui s'appelle Society6.
Voilà, mais on peut y avoir accès à partir de ton site. Hein,
oui, donc, voilà. Mais c'est parce que c'est un site américain, c'est pour ça que c'est
écrit. Ouais, societysix.com.
Oui.
Et puis, donc, / Caro Higano, mais comme on peut le retrouver sur ton site, il n'y a pas de problème. Donc tu expliques aussi sur ton site pourquoi tu as choisi cette e-boutique. Donc, j'invite les gens à aller voir un peu tout ça. Sinon, au niveau de tes spectacles, qu'est-ce que tu proposes comme spectacle?
J'ai pas de spectacle de programmé pour l'instant. Après, ouais. Si des gens ont envie de me programmer, je suis ouverte à toute proposition décente.
Ouais.
Et par contre, j'ai une exposition de prévue dans pas très longtemps, le 5 octobre à Nivelles. Pareil, c'est près d'Orchy, plus vers Douai.
Tous les chemins mènent à Douai.
Voilà, c'est ça.
D'accord, donc une exposition qui consiste en...
Une exposition, alors là ce sera plutôt les illustrations et des créations papier aussi peut-être. avec une association dont je fais partie également, qui s'appelle Art Tribunor.
Ouais.
Et avec laquelle je fais pas mal d'expositions. Et il y a des créateurs géniaux. Je vous les recommande.
Bon, on mettra le lien sur la page Facebook de Des Mains Se Livrent. Est-ce que tu t'adresses à la fois aux enfants comme aux adultes, hein,
oui, oui,
aussi
oui.
Bien pour le compte, mais au niveau de l'illustration, tu fais des choses pour les enfants aussi.
Oui, bah en fait les enfants peuvent voir mes illustrations, oui, il y a pas de problème là-dessus.
Ok. Est-ce que quand tu racontes, tu parlais de la nature, c'était un de tes thèmes. Est-ce que justement, enfin la région, est-ce que la région où tu es, est-ce que ça influe aussi sur ton travail?
Oui, ben je suis née dans le Nord et j'ai toujours vécu dans le Nord, donc effectivement ça, le Nord-Pas-de-Calais, les Hauts-de-France, c'est très ancré en moi. Et effectivement là j'ai écrit un conte qui est en plusieurs parties. Là, la première partie est terminée, je vais encore écrire la suite, sur l'Idéric, qui est le premier conte de Flandre. Oui.
Ok. Et donc, tu racontes, mais tu animes aussi des ateliers d'écriture et d'art plastique.
Oui, oui, oui.
Donc, raconte-nous un peu comment ça se passe. Est-ce que c'est régulier ou c'est...
Non, c'est sous forme de stage ponctuel. Après, c'est aussi à la demande et selon les structures avec lesquelles je travaille.
Je pense que ça, on peut le retrouver sur ton site de toute façon.
Oui,
tu as un blog aussi, hein, qui est ancré sur ton site. Donc voilà, est-ce que tu as des dates Ah oui, à part l'exposition, mais est-ce que tu as d'autres choses à nous annoncer?
Oui, après il y a, enfin j'ai pas de spectacle à annoncer ou de date de balade ou quoi que ce soit à annoncer non plus pour l'instant. Mais par contre, vous pouvez me retrouver au musée de plein air.
Ouais, donc c'est là qu'on s'était rencontrés. Donc voilà. Tu interviens au musée de plein air régulièrement pour des visites comptées.
Pour les visites comptées le dimanche. Aussi. Oui, ouais. Pour les visites comptées le dimanche et d'autres histoires, il y en a le dimanche après-midi, le samedi après-midi et le mercredi après-midi.
Ok. Et le musée de plein air, ça fonctionne pendant la belle saison ou ça s'arrête à un moment donné, je ne sais pas
En fait, la saison est du premier week-end d'avril au premier week-end de novembre. Et c'est ouvert, là en ce moment, c'est ouvert du mercredi au dimanche.
Très bien. J'invite les auditeurs à aller te rencontrer là-bas ou ailleurs. Et donc, aller sur ton site qui s'appelle carohigano.com. Ben, merci beaucoup.
Merci beaucoup,
Caroline. Et bien maintenant, nous allons continuer. À parler nous allons continuer à parler j'ai une invitée qui vient d'arriver. Voilà, c'est du direct, mais il n'y a pas de souci, elle va nous rejoindre en cours de route. Et donc là maintenant c'est l'heure du chemin vert. Pour continuer, on parlait nature avec notre invité. Eh bien, nous allons poursuivre le chemin avec Camille Plard pour sa toute première chronique ici. Nous l'avions reçue en juin pour nous présenter l'Hélicam. Et là, donc, Camille, tu vas faire ta première chronique donc sur le zéro déchet. Bonjour, Camille.
Bonjour.
Et donc bien, nous t'écoutons. Donc là, tu vas nous parler, je crois, de comment se débrouiller justement pour commencer, pour se lancer dans le zéro déchet.
C'est ça. Bonjour à tous. Alors, soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Ok, en commençant ma première chronique par une citation de Gandhi, je passe directement pour une bobo écolo, comme on dit. Ce que je ne suis pas. J'ai juste décidé, il y a quelques années, d'arrêter de payer plus cher l'emballage que le contenu, entrant ainsi dans l'ère du zéro déchet. Pourquoi ? Simplement parce que des industriels ont décidé de suremballer ce que je consomme et de m'en faire payer le prix fort, au détriment de mon porte-monnaie, mais aussi de ma santé et de celle de la planète au passage. C'est que ça m'a empêché de dormir, moi, au tout départ, cette histoire de lobby de l'emballage. Merci Élise Lucet, entre autres. Et lorsque je me suis penchée sur la question, je me suis vite rendu compte que je pouvais agir à mon niveau. Tout n'a pas été simple et j'ai pu être un peu insupportable au départ, mais ça fera l'objet d'une autre chronique. Pour accéder au zéro déchet, l'important, c'est de trouver les solutions qui vous conviennent, en commençant par les moins contraignantes dans votre vie quotidienne. Et vos solutions ne seront sûrement pas les mêmes que vos amis, vos voisins ou encore votre famille. Commencez donc par ce qui vous paraît simple à mettre en place, sans vous comparer à vos voisins. Regardez votre poubelle et posez-vous la question « Que puis-je changer facilement et qui pourrait ne plus se retrouver dans ma poubelle ?» Vous commencerez peut-être par remplacer les sachets à légumes par des sachets en tissu, ou les lingettes pour le visage ou pour bébé ou par des lingettes lavables que vous pourrez même coudre vous-même. C'est ainsi que moi-même j'ai commencé à coudre. Ou encore acheter à des créateurs de votre région si vous ne vous sentez pas l'âme d'en coudre. Ainsi, vous consommerez durable et local, banco, vous avez mis le pied à l'étrier. Par la suite, vous trouverez des alternatives au quotidien. Seul, via les réseaux sociaux ou en discutant, vous verrez que toutes les astuces sont bonnes à partager. Mon astuce à moi, trouver la solution la plus simple possible. Vous décidez de ne plus utiliser de produits industriels pour faire le ménage chez vous ? Parfait. Trouvez des recettes simples avec des ingrédients faciles à utiliser et que vous pourrez trouver dans les commerces près de chez vous. Si vous choisissez des recettes complexes avec des ingrédients difficiles à trouver, vous risquez de réaliser la recette une ou deux fois, puis de lâcher l'affaire lorsqu'il vous manquera un ingrédient, par exemple. On mise donc tout sur la simplicité. Internet regorge de recettes à base de savon de Marseille, de savon noir, de bicarbonate de soude. Testez et trouvez la solution qui vous convient. Je vous donnerai en fin de chronique la recette du nettoyant sol que j'utilise. Chez nous, elle a fait l'unanimité et elle me prend à peine 10 minutes à réaliser. Mais à chacun sa solution. Par exemple, nous faisons notre propre lessive à base de savon de Marseille et de savon noir. Ma sœur, quant à elle, a découvert la lessive bio vendue en vrac près de chez elle. Elle n'a pas le temps de faire ses propres produits et a décidé de tester cette solution. Résultat, ça lui revient moins cher qu'auparavant. Et cerise sur le gâteau, ses enfants, qui avaient des problèmes dermatologiques, n'ont plus rien. Elle a donc trouvé la solution idéale pour elle. Vous vous sentez un peu seul pour démarrer. Vous trouverez certainement des personnes autour de vous dans la même démarche ou qui en sont au démarrage comme vous et qui pourront soit vous épauler dans ce lancement ou même démarrer avec vous. Partagez vos ratés. Et surtout, partagez vos réussites. Le zéro déchet est une démarche positive. Pour démarrer, vous pouvez utiliser une méthode simple. Gardez en tête ces trois verbes qui pourront vous aider au quotidien. Refuser, réduire, réutiliser. Alors, pourquoi refuser ? Simplement parce que tous les produits que vous ferez entrer chez vous et que vous jetterez rapidement, par exemple des publicités, des objets à usage unique, nécessitent en amont d'être produits, consommant au passage beaucoup de ressources naturelles pour une durée de vie d'à peine quelques minutes. Alors comment refuser les produits à usage unique, les prospectus, la publicité ou encore les objets publicitaires ? Mais tout simplement, vous pouvez apposer un stop pub sur votre boîte aux lettres, que vous trouverez en général dans votre mairie. Ou vous pouvez encore dire simplement « non merci » lorsqu'on vous tend un prospectus ou un échantillon gratuit, vous n'en avez pas forcément besoin. La paille est également un très bon exemple, la paille jetable. N'hésitez pas à commander votre boisson sans paille. Lorsqu'on est un adulte sans problème de déglutition, on peut tout à fait boire sans paille. Et chez le boulanger encore, demandez une baguette sans emballage. Bref, on refuse. Et si vous n'avez pas pensé à refuser et que vous vous retrouvez avec l'emballage sur la baguette, ne vous autoflagellez pas. Je suis sûre que vous y penserez la prochaine fois et ça finira par devenir un réflexe. Le second verbe, c'est donc le verbe « réduire ». Pourquoi réduire et que réduire ? Vous pouvez réduire les emballages jetables ou encore votre consommation d'énergie, le gaspillage alimentaire par exemple. Sachez que chaque Français jette en moyenne 150 à 200 grammes de nourriture par jour. Alors, comment réduire ? Eh bien, en faisant les courses en vrac, vous réduisez par exemple les emballages jetables. En cuisinant les bonnes quantités, en cuisinant les restes, vous réduisez le gaspillage alimentaire. En consommant local et de saison, vous réduisez l'impact du transport de vos aliments. En bref, en repensant votre manière de consommer, vous êtes amené à consommer moins car vous êtes moins impulsif dans vos actes d'achat. Ça fonctionne pour notre consommation en général. Ça fonctionne pour les vêtements, les accessoires. J'achète moins, mais de meilleure qualité. Par exemple, avant d'acheter un vêtement, posez-vous la question « En ai-je réellement besoin ?» Pour vos courses au quotidien, posez-vous les questions « Comment éviter les emballages jetables ?» Puis-je acheter en vrac près de chez moi ? Quelles solutions s'offrent à moi ? Et ou alors les commerçants près de chez moi acceptent-ils mes contenants ? Bref, on repense l'acte d'achat. Le dernier verbe, c'est le verbe réutiliser. Parce que vous pouvez très facilement réutiliser un maximum et donner une seconde vie aux objets qui se trouvent chez vous. Concrètement, ça donne quoi ? Eh bien, vous pouvez acheter d'occasion les vêtements, les outils de jardin, l'électroménager. Vous pouvez réparer ce qui ne fonctionne plus. Ou si, comme moi, vous n'êtes pas bricoleur, vous rendre dans des repair cafés qui voient le jour un peu partout. Vous pouvez transformer d'anciens textiles pour en faire des éponges, des lingettes lavables pour le ménage ou encore pour le visage, des sacs à vrac pour les courses. Vous pouvez réutiliser des contenants en verre. Par exemple, si vous achetez en hiver des haricots verts en bocaux, il vous suffit de les garder. Et vous pouvez les réutiliser par la suite pour congeler des aliments, les conserver au frigo ou encore transporter les restes de repas pour manger le midi au bureau. Vous pouvez encore vous inscrire sur des plateformes d'échange qui vous permettent de mutualiser des objets entre voisins. Vous utilisez votre machine à raclette, par exemple, une ou deux fois par an. Le reste du temps, vous pouvez la prêter, la mutualiser. Au final, le zéro déchet, c'est une question de bon sens. La solution se trouve dans nos changements de comportement. Et j'en entends déjà quelques-uns rétorquer « Oui, mais alors les industriels, le gouvernement, etc. C'est pas moi, je ne peux rien faire. » Alors le plus grand conseil que je puisse vous donner aujourd'hui, c'est de ne pas attendre que le changement vienne des autres. Prenez les choses en main, pour vous. Ça ne veut pas dire qu'en un mois, de bonnes résolutions, vos poubelles seront vides ou que le réchauffement climatique fera machine arrière. Mais vous reprendrez le pouvoir de votre consommation. Choisissez ce que vous mangez, ce que vous portez, votre façon de vous déplacer, et vous rendrez vite compte que les choses avancent. Certes, doucement, mais sûrement. Bref, soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Voilà. Et donc, pour terminer cette première chronique, comme je vous ai promis au départ, je vous donne la recette du nettoyant sol que nous utilisons. Sachez que je ne conseille que des recettes que j'ai personnellement testées et approuvées et qu'on utilise au quotidien. Alors, pour le matériel, vous aurez besoin d'une spatule, d'une balance et d'un récipient pouvant contenir 1 litre de liquide. Et veillez à ce que votre matériel soit bien propre. Pour les ingrédients, 50 g de cristaux de soude que vous pouvez acheter en vrac, 150 g de savon noir liquide que vous pouvez acheter en vrac également. Et si vous le souhaitez, vous pouvez rajouter de l'huile essentielle, de citron ou de lavande par exemple. Il faut 4 g, ça représente environ 100 gouttes. Alors, pour la manière de procéder, vous remplissez 800 ml d'eau froide dans votre récipient, vous y versez les cristaux de soude et vous laissez reposer 10 minutes, le temps que les cristaux se dissolvent. Quand ils sont bien dissous, vous ajoutez le savon noir liquide en mélangeant avec la spatule, puis l'huile essentielle si vous voulez en ajouter. Vous transférez la préparation dans votre flacon et votre recette est terminée. Vous pouvez l'utiliser comme un nettoyant classique, 1 à 2 bouchons dans votre seau d'eau chaude.
Eh bien, très bien. Merci beaucoup, Camille. Alors, toi, tu as une entreprise, hein, ça s'appelle By Lelicam. Lelicam, donc L-E-L-I-C-A-M. Et donc, tu proposes des créations textiles et des ateliers couture zéro déchet.
Oui, c'est ouais. Ça.
Et des événements à nous annoncer?
Alors, pour les ateliers, en fait, pour le moment, j'en fais essentiellement pour les communes qui organisent des défis zéro déchet. Donc, j'ai pas mal de samedis occupés déjà. Après, je suis résidente aux ateliers Jouret à Roubaix. Et nous avons un événement les 12 et 13 octobre. C'est les journées de portes ouvertes des ateliers d'artistes. Et du coup, ce sera les 12 et 13 octobre, on sera en porte ouverte, donc vous pourrez m'y retrouver, je pense que je serai le dimanche. Je ne pourrai malheureusement pas y être le samedi.
Ok, eh bien, on relaiera ça sur la page Facebook de Des Mains, c'est libre.
Ça marche.
Voilà, eh bien, merci beaucoup. Et puis,
merci.
On se retrouve le mois prochain pour une prochaine chronique. Eh bien, on va parler de recyclage aussi, réutilisation, tous les mots qui commencent par un R, qu'elle nous a cité Camille, avec notre prochaine invitée, et justement son entreprise, ça commence par RE également. C'est RE Femme Market qui propose des produits mode issus du recyclage sous toutes ses formes, c'est bien ça?
Oui, bonjour à tous.
Bonjour,
effectivement, bienvenue. Ce fut une belle introduction de Camille autour des 3 R. Et nous, on va se concentrer sur le troisième, qui est réutilisé. Donc, Rifa Market, c'est une marque lilloise spécialisée dans les créations mode à partir de matériaux recyclés. Donc, on étend nos gammes sur les principes du recyclage sous toutes ses formes. Donc, la marque développe à la fois des collections de prêt-à-porter à partir de matières que l'on détourne de leur usage premier, ce qu'on appelle l'upcycling. Donc, on va travailler avec des industriels régionaux. On va récupérer leurs chutes, leurs déclassés, les tissus surproduits ou en fin de fin de série que l'on va réimaginer, réinventer dans des vêtements plutôt haut de gamme qui vont être en plus confectionnés dans un atelier d'insertion à Calais. Donc, à la fois, on est sur de la réutilisation par le haut. Mais on est également sur du circuit court, puisque la matière ne fait pas le tour de la planète avant d'arriver dans vos placards. Elle est imaginée à Lille, le tissu est originaire de Roubaix, et il est ensuite confectionné à Calais, ce qui est plutôt très court comme circuit de fabrication, et on en est plutôt très fiers. Ensuite, on va imaginer des collections plus classiques, mais plus faciles à porter aussi, des t-shirts, des suites, à partir de fils recycler, ce qu'on appelle la matière régénérée. Donc là, on développe des t-shirts en coton, polyester et tencel. Donc le coton et le polyester sont recyclés. Le fil est tissé en France. Et nous, on imagine des visuels décalés mais engageants autour de la green génération, donc le consommer vert, le consommer engagé, le consommer durable. Et on travaille aussi toute une gamme d'accessoires à partir aussi de matériaux. De matériaux recyclés, ça va de la chambre à air à la voile de bateau, en passant par diverses, le verre aussi, on peut être très large. Notre ingrédient principal, c'est la créativité, et c'est le deuxième ingrédient principal, c'est la qualité.
Très bien. Et donc, il y a les créations RE Femme Market, mais il y a aussi vous travaillez aussi avec des designers.
Exactement. On part du principe qu'on n'a pas le monopole de la bonne idée, et on part aussi du principe que seul on va vite, mais ensemble on va beaucoup plus loin. Donc on s'est entouré de différents talents, de différents designers, de différents créateurs qui partagent notre vision, la vision d'une mode plus durable, d'une créativité enrichie par la réutilisation de matériaux, toujours par le haut. Donc j'insiste sur le fait qu'on est vraiment sur une créativité de qualité plutôt haut de gamme, et on leur propose de vendre leur création quand elles correspondent à notre cahier des charges. Donc voilà, on s'entoure d'un vivier de créateurs, de designers qui partagent cette vision d'une mode autrement.
Et comment s'est né justement RE Femme Market? Quel a été le déclic?
Alors, l'entrepreneuriat est souvent lié à une histoire personnelle. On n'a pas tous la même histoire, et la mienne est forcément teintée de ma propre expérience. Moi, je suis originaire du Nord, je suis fille d'agriculteur, donc ça veut dire que j'ai grandi à la campagne. J'ai grandi dans un univers réellement connecté à la nature. On en parle peu, malheureusement les agriculteurs sont souvent montrés du doigt, mais ils sont vraiment connectés à la nature parce que ils dépendent d'elle, du temps, de la terre, des maladies, etc. Et donc on sait à quel point cet équilibre est fragile quand on vit au quotidien avec des épées Démoclès qu'est les caprices de la nature, hein, soyons clairs. Mais aussi on se rend compte très vite de l'effort que nécessite la nature pour produire ce qu'elle a à nous offrir. Et donc le gâchis fait partie aussi intégrante, la lutte contre le gâchis, de notre façon de fonctionner, de vivre à la campagne. Quand j'ai forcément évolué, et j'ai fait mes études, que je suis arrivée donc en ville, si on peut parler de ville, ce contraste ville-campagne, cette espèce de lutte contre le gâchis est devenue vraiment très récurrente. Et vous savez que la terre produit à la fois ce que l'on mange, mais aussi ce que l'on porte, le coton, le lin, pour ne citer que. Et étant très très impliquée dans la mode, j'ai commencé à réfléchir à comment éviter ce gâchis de la mode. La mode est la deuxième industrie la plus polluante du monde, à la fois dans la façon dont elle produit ses tissus, ses fils, donc le coton notamment, mais aussi comment elle le transforme. Les teintures sont extrêmement polluantes, la plupart des fleuves d'Asie sont pollués, le transport des matériaux, c'est-à-dire qu'un cargo qui vient d'Asie pour ramener nos vêtements qu'on aime porter chez les marques du fast fashion, c'est l'équivalent, donc un cargo, en pollution de 50 millions de voitures. Donc imaginez si on totalise la totalité des cargos, ce que ça représente. Donc ça, ce sont des chiffres qui me frappent, qui me marquent, et à partir de là, effectivement, j'ai envie d'aligner mes valeurs personnelles avec mon projet d'entreprise. Ajouter à cela une façon personnelle de consommer très R, donc très réutilisé, recyclé, réinventé. Je consomme personnellement depuis dizaines d'années à la fois dans mes équipements de la maison, mobilier électroménager, mais aussi mes vêtements, mes accessoires, des produits de seconde main. Et j'ai découvert des pépites, des richesses, des trésors dans les placards, les greniers, les vide-dressing, les brocantes, que sais-je. Et je me suis dit, il y a des choses à faire avec ça. Et donc, comment créer un concept qui permet à la fois de réinventer la matière, mais aussi de créer une marque avec une vraie ADN en plus régionale, puisque je suis assez fière de ma région, vous l'aurez compris. Et bien voilà, c'est comme ça qu'est née la recette et les ingrédients pour créer Rifa Market.
Mmh. Et toutes les valeurs dont vous parlez, ça se retrouve aussi dans votre blog. Il y a un blog, c'est donc sur refabmarket.fr. Donc il y a une partie blog et on peut découvrir. J'ai bien aimé les articles que j'ai vus. Il y a un article sur les soldes. J'ai vu ça il n'y a pas longtemps. Et puis sur une personne justement qui a un blog aussi qui. Je ne sais plus le nom, mais voilà.
Exactement, c'est important aussi de le dire. Alors nous, on vend à la fois nos produits en ligne, mais on ne fait pas seulement que vendre nos produits. Toute cette notion du mieux consommer, cet engagement à mieux consommer à la fois dans ce que l'on mange, de ce que l'on porte et ce que l'on achète, il faut la comprendre parce qu'elle n'est pas innée. Donc un blog, pour nous, c'est une façon de partager nos expériences à la fois de créateurs de marques autour de la créativité, nos engagements, nos inspirations, mais aussi nos rencontres, nos coups de cœur, et pourquoi cette démarche, et pourquoi elle est importante, et pour ramener le sujet à ce que disait Camille, en quoi chacun d'entre nous a la capacité de faire sa part, et a la capacité de participer au changement, la capacité de se responsabiliser, alors non pas porter tous les malheurs de la terre sur ses épaules, mais simplement se dire, moi, chez moi, je peux faire ma part et je peux participer à une meilleure façon de construire cette société en consommant. Ma carte de crédit, en fait, c'est quelque part aussi une vraie façon d'agir et une façon d'exprimer ce que je veux et de faire changer les choses.
Donc, il y a le blog, donc le site. Donc, sur le site, on peut retrouver tous vos articles avec plein de renseignements sur la fabrication aussi, hein, des vêtements.
Exactement, sur la démarche, ce que j'ai expliqué succinctement ici maintenant est expliqué de manière plus précise parce qu'effectivement, pour en arriver à produire une collection entièrement recyclée dans un principe de circuit court avec des matériaux de qualité, il y a toute une démarche longue de réflexion, de création, de test, de réussite, mais aussi parfois d'échec, parce que l'échec fait aussi partie de l'entrepreneuriat, il faut le savoir. Et donc, on le raconte avec beaucoup de simplicité et aussi, on essaie de le faire avec humilité à travers les articles qu'on écrit parce qu'on veut faire participer nos clients, nos lecteurs, notre communauté à cette aventure.
Quelle est votre équipe, justement? Comment vous fonctionnez à Rifab Market?
Alors, on travaille avec une modéliste qui va appliquer sur des patrons les créations que l'on imagine. Donc moi, je suis la directrice artistique de la marque, en plus de toutes les autres choses que je fais pour Rifa Market. Mais je travaille aussi avec une styliste qui va, avec moi, construire les collections. Nous, on part de la matière, c'est-à-dire qu'on va pas imaginer un dessin et aller chercher la matière, c'est qu'on a la matière et à partir de ce que l'on a, on va réfléchir à ce qu'on peut l'en faire. Ce qui change foncièrement la façon de concevoir la mode, parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne dans le fast fashion. Je travaille aussi avec une
avec une équipe digitale qui va travailler avec moi toute la mise en forme du site et également toute une partie community management, création d'images, publicité, d'événements pour tout ce que l'on met en œuvre en région et même sur Paris pour promouvoir la marque et les produits.
Ok. Donc, et en plus du site, donc là où on peut acheter, hein, mais vous avez aussi, bientôt, il y aura une boutique début 2020 Lille Sud, c'est ça? Je ne sais plus exactement où.
Alors exactement, aujourd'hui on a un showroom, c'est-à-dire qu'on a un espace de vente sur le, dans lequel on reçoit nos clientes sur rendez-vous. Donc la cliente nous contacte soit par Instagram, Facebook ou les différents réseaux, canaux, notre site aussi disponible sur, sur Internet. On la reçoit sur rendez-vous, elle essaie, on est au petit soin avec elle pour lui présenter l'ensemble de la gamme, lui et des copines parfois, on prend le temps de la recevoir avec un café et des croissants quand c'est le matin, un café et des gâteaux quand c'est l'après-midi. Mais effectivement, l'objectif c'est de pouvoir ouvrir une boutique ouverte tous les jours de la semaine. C'est prévu pour 2020. Effectivement, comme on développe de nouveaux produits, on peut pas être au champ et à la ville. Donc, le showroom nous permet de maîtriser notre emploi du temps et de continuer à créer de nouveaux produits tout en recevant nos clients. Mais l'idée, c'est de pouvoir recruter dès l'année prochaine une responsable de boutique qui pourra accueillir les clients toute la semaine. Voilà. Vous savez tout.
Oui, oui. Donc, ça se passera donc, dans quel endroit environ?
Alors, on sera effectivement à Lille Sud. On s'installe dans un quartier en renaissance. Donc, comme vous l'avez compris, on fait renaître la matière. On fait renaître aussi des femmes grâce à l'emploi en participant à la création d'un atelier de réinsertion par le travail. Et aussi, on s'est intégré dans un quartier en pleine renaissance. Donc, Lille Sud est un quartier qui aujourd'hui a été complètement réaménagé en termes d'urbanisme. Donc, on trouve que ça a du sens. On est à Lille. On est dans un quartier multiculturel. Donc, ça nous va complètement. Et en plus, on a installé à côté d'un futur centre commercial qui ouvre ses portes au mois d'avril, a priori, en 2020.
Il y a un peu de retard, ouais.
Et donc, ça nous permettra aussi d'être à la fois en lien avec le commerce traditionnel, montrer qu'on peut être connecté au commerce traditionnel et en même temps consommer différemment.
Très bien. Et donc, vous parliez des clientes, mais il y a aussi des articles pour hommes aussi sur la boutique.
Oui.
Il y en a pas beaucoup, mais vous allez développer certainement le côté masculin.
C'est effectivement une très bonne remarque. On a commencé à tester parce qu'on s'est rendu compte quand on a lancé nos premiers produits que beaucoup des maris ou de notre communauté étaient quand même à 38% masculine. Donc c'est quand même énorme et donc on s'est dit mais on peut pas les laisser sans rien, donc on a développé une gamme de produits, donc des t-shirts recyclés qui a cartonné, enfin vraiment c'était un très bon test. Et donc là on travaille actuellement sur des nouveaux produits qui vont s'adresser davantage aux hommes, donc on aura aussi une collection de sweatshirts qui va sortir là au mois d'octobre, et on travaille sur d'autres produits un peu plus confidentiels qui vont sortir fin d'année et surtout l'année prochaine pour arriver à une gamme où on sera à 60-40, 60 femmes et 40% pour les hommes. Voilà, parce qu'on veut. On s'excuse d'ailleurs d'être passé à côté de, au départ à côté de cette clientèle tellement, tellement sympathique et finalement avec lesquelles on s'amuse bien dans nos différents événements. Voilà.
Ok, alors donc on rappelle le site, c'est Refab Market, REFABMARKET, voilà, et sinon il y a aussi les réseaux sociaux, Facebook, Instagram,
Twitter. Alors c'est bien que vous le signaliez parce que quand on veut accompagner ou soutenir une marque comme la nôtre qui est une jeune marque, on va rester humble. Il y a plusieurs façons de le faire. Effectivement, c'est de se dire ben moi ça me parle, ces produits là, c'est complètement ma façon de penser, donc j'adhère et je participe, je consomme. Mais il y a aussi tout simplement suivre sur les réseaux sociaux parce que tout ce qu'on communique, c'est nous suivre, nous accompagner, nous encourager, c'est une façon aussi de partager notre savoir-faire, notre vision de la mode, et c'est déjà un très bon point. Donc n'hésitez pas, et si ça vous parle, venez nous